C'est à nous, tous, qu'il appartient ici et maintenant, de décider du monde dans lequel ces générations vivront. Nous avons à construire le monde que notre jeunesse mérite.
On l'a prié de rester chez lui. Le handicap, c'est pas Frenchy. Si tu ne rentres pas dans les cases, on te considère comme un naze.
Suite aux derniers événements liés à la réforme des retraites, on a souhaité parler travail et inclusivité avec l'association Down Up. Une association qui agit pour la reconnaissance de chaque individu dans une société de droit commun. Rencontre avec Emmanuel Lalou, président de l'association, et Lali Héran, coordinatrice de parcours.
Une association qui est née dans les années 80 par la volonté de parents, à l'époque de parents d'enfants ayant une trisomie 21 qui souhaitaient que leur enfant fasse une vie, un parcours en milieu ordinaire et non en établissement spécialisé. Donc c'est une association qui s'est rapidement opposée au monde médico-social et qui a toujours défendu le monde ordinaire.
Et qu'est-ce que vous y faites ici alors ?
Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans cette association qui s'est depuis ouverte à tout handicap, on va dire ? Notre principe, il est d'accompagner des personnes avec une fragilité dans le monde ordinaire, de droit commun, pour vivre, travailler, habiter, être citoyen. Le plus ordinaire possible.
C'est un lieu de vie aussi, ici. Les habitants peuvent venir pour travailler, se rencontrer, échanger ou peut-être faire des activités ou des ateliers.
C'est un lieu qu'on appelle, pour nous, c'est le tiers-lieu. C'est un lieu rassembleur, créateur de liens, non pas entre les personnes fragilisées, mais entre tout le monde, entre tous. C'est un lieu qui fait entrer l'entreprise, qui permet à des personnes en situation de handicap de sortir. C'est un lieu qui permet d'accompagner, en fait. Et la personne fragilisée y trouve des ressources pour habiter, pour travailler. Et ce sont des ressources à la fois humaines ou matérielles qui permettent d'ouvrir un petit peu et de créer un écosystème bienveillant et inclusif.
Est-ce que l'objectif, c'est aussi de mettre en valeur sa singularité tout en ayant droit à être considéré comme une personne normale ? Comment on fait ça ? Est-ce que c'est important, déjà ?
C'est très important de considérer la singularité. Et après, moi, souvent, ce que je défends, c'est l'idée que la singularité est une source de richesse. Dès le moment où on l'accepte bien et où on peut partager, finalement, les valeurs. Donc, aujourd'hui, nous, effectivement, quand on parle d'inclusion, on parle pour les personnes de valeur ajoutée, parce qu'elles apportent vraiment quelque chose aux autres, aux équipes qui travaillent avec elles. Et en retour, en fait, l'entreprise ou la société aujourd'hui permet la création de réseaux et de soutien pour les personnes fragilisées.
Comment on travaille le regard de l'autre ? Comment on donne confiance, en fait, aux personnes en situation de handicap pour affronter aussi le regard de l'autre ?
C'est avant tout de les considérer comme des adultes, des personnes, et leur montrer qu'elles sont capables, parce que c'est aussi ce qui leur permet de prendre confiance en elles, c'est-à-dire que c'est parfois des personnes, par leur parcours de vie, qui ne vont pas avoir confiance en eux et en ce qu'ils sont capables de faire. Et nous, on est là aussi pour les valoriser, pour leur montrer que, bien évidemment, qu'ils sont capables de travailler, d'être des citoyens, de s'inclure dans la ville. Et c'est ce qui va leur donner confiance. Et après aussi, ils vont pouvoir oser aller vers les autres, oser s'ouvrir et se montrer tels qu'ils sont. Et je pense que c'est avant tout, de cette manière-là, c'est apprendre à les connaître et apprendre à leur donner confiance en les valorisant, en mettant en avant leurs compétences et non pas ce qu'ils ne savent pas faire, parce qu'il y a tellement de choses qu'ils savent faire et bien plus que des choses qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc c'est avant tout avoir cette approche positive et toujours bienveillante auprès de la personne accompagnée.
Je trouve qu'on parle peu du handicap à l'école. Comment on sensibilise des enfants sur ce sujet-là ?
Mais je pense que plus il y aura de différences dans l'école, moins on stigmatisera. Et le principe, il est vraiment que demain, ce qu'il faudrait, c'est ne plus avoir de loi du handicap, ne plus parler de... Le terme handicap ne devrait pas exister. En fait, on a tous notre différence, nos particularités, notre singularité. Et le principe, il est de finalement, plus tôt on s'y prend, plus tôt on fait de la mixité du mélange, plus on va ouvrir les regards vers la différence et plus on va permettre de l'accepter.
Nous sommes toujours avec Emmanuel Lalou et Lali Héran de l'association Down Up, l'occasion d'évoquer le travail et l'inclusivité, et notamment l'adaptation de la société aux personnes en situation de handicap.
j'ai l'impression quand même de plus en plus les entreprises souhaitent embaucher des personnes en situation de handicap et en tout cas tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent se sentir bien dans leur travail, mais comme pour tout salarié, qu'ils puissent se sentir bien dans leur travail et épanouis dans leur vie professionnelle. Après, bien évidemment que tout n'est pas rose et qu'il faut bien évidemment accompagner les entreprises et puis accompagner aussi la personne. Je pense que d'un point de vue professionnel, l'accompagnement va dans les deux sens. Il faut que les entreprises et l'employeur puissent ouvrir un peu leur regard. Et puis, il faut aussi que les personnes travaillent leurs compétences professionnelles, leurs compétences psychosociales pour aussi bien s'inclure dans une équipe, dans une entreprise. Je pense que ça va dans le bon sens, mais il y a effectivement encore du travail oui, pour que les personnes puissent vraiment être incluses dans le milieu ordinaire d'un point de vue professionnel.
Souvent, on demande à la personne différente de s'adapter à l'endroit où elle va. Mais en fait, le principe, c'est que c'est à la société de s'adapter à la différence. C'est à l'entreprise de s'adapter à la différence. C'est à l'éducation nationale de s'adapter aux élèves différents. Et tout le temps où on aura une posture de sachant ou d'ordinaire par rapport à de l'extraordinaire ou du non-ordinaire, ça ne pourra pas fonctionner. Et je pense que si on ne raisonne pas du comment on peut s'adapter à cette différence, si on n'entre pas en communication avec la différence, avec ces personnes différentes, finalement on crée de l'exclusion. Donc en fait l'inclusion, elle tient à un changement de posture et de regard vraiment profond en fait. Hein. C'est pas des lois, la loi va aider peut-être, mais si profondément on n'éduque pas autrement à la différence, on n'arrivera pas à faire de l'inclusion.
Pour se rendre un petit peu plus compte, quelles sont les discriminations qu'une personne en situation de handicap peut vivre en fait dans le monde professionnel ?
En fait, nous on connaît bien la spécificité de la déficience intellectuelle. Ce sont des personnes qui ont une intelligence différente de la nôtre. Ce sont des personnes qui ont une intelligence émotionnelle. Et en fait, ce qui souvent pose problème, c'est que finalement, il y a des milieux où l'émotion n'a pas droit en fait. N'a pas lieu d'être. Or, même au travail, on peut avoir des émotions, et puis en fait, un choc émotionnel peut provoquer un comportement différent. Ce qui fait qu'à partir de là, l'employeur, le tuteur, ne comprend pas le comportement de la personne qui finalement a eu ce choc. Et en fait, il faut pouvoir un petit peu dédramatiser tout ça, anticiper, préparer le tuteur à ce que finalement on lui dise, écoutez, vous savez, il peut se passer quelque chose, mais s'il y a quoi que ce soit, appelez-nous. On est là pour peut-être vous guider dans la réaction, dans le comportement à avoir face à cet inattendu. Et à partir de là, on relie un petit peu toute la problématique du management par rapport à l'inattendu. Qu'est-ce qui arrive même dans une entreprise ? En fait, finalement, n'importe quel chef d'entreprise peut être face à un comportement inattendu d'une personne dite en situation de handicap ou non-handicap. C'est exactement pareil. Et c'est là où on se dit, mais pourquoi faire une différence ? Et à partir de là, finalement, on s'aperçoit que le management, c'est aussi une question d'individu et de relation à l'individu et non pas de relation au groupe. Et que tout ça est finalement fondateur et que l'expertise que l'on attrape avec le handicap, on peut la transmettre à tout un chacun.
On a déjà eu des retours d'entreprise où effectivement, ils nous disaient que c'était inimaginable ce que la personne en situation de handicap a pu apporter à l'équipe. Chacun a réappris à regarder l'autre, ce qui souvent peut s'oublier dans le monde de l'entreprise parce qu'on est pressé, parce qu'on est focalisé sur ses missions, sur ses tâches et on ne fait plus attention à l'autre. Et le fait d'avoir une personne en situation de handicap dans l'équipe a permis à chacun de se dire « allez, on se pose et on fait attention à l'autre ».
Est-ce qu'en termes d'accompagnement, vous orientez vers des domaines professionnels plus précis ou vous êtes ouvert à tout ?
C'est le choix de la personne qui nous guide, c'est pas nous qui guidons la personne. Parce qu'en fait, le principe de l'accompagnement accompagné, c'est être à côté de la personne pour aller là où elle souhaite aller. C'est pas là où on souhaite l'emmener, c'est là où elle souhaite aller. Et à partir de là, souvent, nous, on permet à des personnes de découvrir à travers des stages leurs appétences, en fait, là où elles se sentent bien. Et à partir de là, finalement, quand elles se sentent bien au travail, ça devient un emploi pérenne, en fait.
Oui, comme pour tout le monde, ils ont besoin effectivement, mais comme pour tous, c'est ça, de stage pour découvrir quel domaine nous plaît ou ne nous plaît pas. Nous, on est là pour leur donner la possibilité d'accéder à ces stages, à ces domaines-là, où ce qu'on peut voir malheureusement dans certains établissements où justement c'est très fermé et on ne donne pas la possibilité à la personne d'accéder à un domaine un domaine professionnel qui lui plaît, que voilà, nous, il n'y a pas de limite, c'est la personne avant tout.
Est-ce que vous avez un avis sur la mise en place de quotas ou pas dans les structures professionnelles ?
En fait, le quota, à un moment donné, c'est un coup de pouce. Mais il faut arrêter avec le quota. Enfin, bon, il faut vraiment que la société comprenne que finalement, tout le monde a sa place. C'est comme à un moment donné, la loi du handicap a impulsé, mais aujourd'hui, la loi du handicap, pour moi, n'a plus de sens parce qu'elle ne stigmatise le handicap. On ne parlera d'inclusion que lorsqu'il n'y aura plus de loi. Parce qu'aujourd'hui, faire un plan incliné, ça vaut autant pour une maman avec une poussette ou une mamie avec un caddie qu'une personne en fauteuil roulant. Il faut arrêter de penser que quand on fait un plan incliné, c'est pour une personne en situation de handicap. C'est tout ce regard de la société porté sur le handicap qui a stigmatisé le handicap et qui fait aujourd'hui que pour des coincés, pour des verrouillés, on met des quotas, mais le quota, ça n'a pas de sens.
Justement, vous parlez de lois. Est-ce qu'il existe des lois spécifiques de protection qui ont été mises en place ? Est-ce qu'elles sont utiles ou pas ?
Oui, il y a forcément des lois, mais des lois qui ont créé des établissements dits adaptés. Et ça, c'est pas bon. C'est renfermé, c'est contraire à l'inclusion. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que des établissements de travail, en fait, spécifiques, qu'on peut nommer ESAT, par exemple, ne sont pas adaptés, parce qu'en fait, les personnes qui y sont n'ont pas choisi leur métier. Les personnes qui y sont aujourd'hui, elles travaillent pratiquement à temps plein et sont payées à la moitié du SMIC. Et tout ça n'est pas respectueux de la personne, même si au départ, c'était une bonne intention. Mais de cette bonne intention, quand l'État donne par employé dans un ESAT une enveloppe de 13 000 euros par an, est-ce que cette enveloppe ne pourrait-elle pas servir pour moitié peut-être à l'entreprise qui emploie, hein, c'est une aide, et pour moitié à un dispositif d'accompagnement de la personne. Et là, on arriverait vraiment à inclure davantage dans l'entreprise ordinaire.
Est-ce que la réforme des retraites, ça a des conséquences du coup sur les personnes en situation de handicap dans le travail, ou il n'y a pas de protection spécifique, ça ne change rien ?
La retraite pour la personne en situation de handicap, c'est encore presque prématuré d'en parler, quoi. En fait, peu sont celles qui ont fait un parcours encore complet dans le milieu ordinaire pour arriver à la retraite, mais la question va se poser. Après, je veux dire que moi, mon sentiment, c'est comme pour tous, hein. On doit raisonner comme pour tous, c'est-à-dire que pourquoi avoir un régime particulier à partir du moment où un régime s'inquiéterait du bien-être de la personne ou de la fatigabilité de son métier. Dès le moment où il en tient compte, à ce moment-là, on tient compte de ce handicap qu'on pourrait avoir. C'est tout un débat, quoi. En fait, c'est un débat qui ramène à la notion d'individu. Moi, souvent, je dis qu'ici, on essaye d'apporter des réponses à la personne et non pas des solutions, parce qu'une solution, c'est tout de suite, c'est collectif, quoi. À chaque fois, à chaque cas qui se présente à nous, on doit adapter une réponse. C'est à la personne qu'on adapte. Aujourd'hui, le système de la retraite, à mon avis, il n'est pas adapté à la personne.
J'ai une question un peu personnelle, du coup, pour tous les deux. Qu'est-ce que de travailler ici, ça vous apporte ?
Moi, pour ma part, qui suis issue d'une formation d'infirmière et donc qui avait effectivement une connaissance uniquement du monde hospitalier ou alors à la limite des EHPAD, c'est une ouverture, enfin, c'est une richesse incroyable parce qu'on change complètement son regard sur la personne et on part aussi du principe que la personne a autant à nous apporter que nous avons à lui apporter. Effectivement, il n'y a pas cette position de sachant et la personne qui ne sait pas. On est tous les deux au même niveau et on avance ensemble dans un même but.
Ce qui m'apporte ici, c'est de voir le bonheur des personnes, en fait. Et de voir de croiser tout le temps des personnes que je vois évoluer dans le bon sens, en fait, et qui se construisent un bonheur et une autonomie de vie. Aujourd'hui, notre association, elle porte ça, et il faut qu'elle le porte toujours, pour moi. L'enjeu, justement, c'est de rester une taille humaine, de proximité, parce qu'en fait, ici, les bureaux sont transparents, on voit ce qui se passe, il y a une communication, et je pense que ça fait partie de la richesse de l'association.
Je créerai tous les postes d'auxiliaire de vie scolaire pour que les jeunes enfants vivant en situation de handicap puissent aller à l'école.
Génération hashtag, inclusion ferme ta gueule. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école.
génération, hashtag inclusion, ferme ta gueule, c'est que des belles paroles, en vérité tu déconnes.
Alors j'aimerais terminer cet échange sur une actualité, il y a une Barbie porteuse de trisomie qui est sortie là récemment. Plus largement, est-ce que vous trouvez que dans les jouets, ou en tout cas le monde de l'enfant, il y a un manque d'inclusivité ?
Oui, clairement. Alors après, je ne suis pas une spécialiste des jouets pour enfants, mais oui, clairement, là, on le voit récemment avec Barbie, donc qui essaye de développer ça. Mais oui, j'espère en tout cas que l'action menée par Barbie va influencer les autres fabricants de jouets à être effectivement plus inclusifs. Je pense que effectivement, à travers l'actualité, ce qu'a pu faire Barbie, c'est montrer que non, toutes les petites filles n'ont pas envie de jouer avec une grande Barbie toute fine et blonde et qui n'a aucun handicap, et voilà, c'est aussi s'adapter à la personne, être plus inclusif et donner la possibilité à chaque enfant de se retrouver dans ses jouets. Et je pense qu'effectivement, actuellement, ça manque, mais j'espère que les actions récentes vont influencer les autres à faire la même chose.
Donc, dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez répondre à ceux qui pensent que c'est aussi un coup de pub, parce qu'il y a le film Barbie qui sort là cet été, de la part de Mattel, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu marketing derrière ?
Je pense que de toute manière, ils sont pas philanthropes. Enfin, je veux dire, c'est une entreprise qui a besoin de gagner son argent. En même temps, je pense que c'est du gagnant-gagnant, quoi. Aujourd'hui, l'expérience et le contact qu'on a eu avec Mattel par rapport à cette Barbie montre aussi une vraie volonté de faire évoluer ce cliché de la Barbie. Ça vient effectivement avant le film. Je pense que plus que prévu, en fait, finalement, c'est une opportunité qui tombe comme ça. Il y avait vraiment cette volonté de sortir des poupées différentes pour ouvrir un petit peu le regard des enfants, et puis de se dire que, ben voilà, si je suis trisomique, je peux aussi avoir un parcours, et puis je peux avoir une vie un peu ordinaire, même parfois très riche. Et donc, en fait, ça, je trouve ça très bien. Et que, finalement, le film venant derrière, ça va encore réappuyer toute cette communication. Je pense que le résultat, il va être là.
C'était Emmanuel Laloux, président de l'association Down Up, et Lali Errant, coordinatrice de parcours de cette même association. Une association qui agit pour la reconnaissance de chaque individu dans une société de droit commun. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez découvrir le tiers-lieu au 21 rue Paul-Adam à Arras, ou les retrouver sur leur site internet www.down-up.fr et sur Facebook.
Vivement, cette société change, celle où la différence dérange, mais faute d'avoir votre intérêt, on demande juste un peu de respect. Mettez-vous un peu à leur place, regardez-vous dans une glace. Tous ces enfants handicapés, ils sont déjà condamnés. Vous les privez de leur avenir, vous êtes en train de les démolir. L'instruction n'est pas une option, il s'agit d'une obligation. Il faut croire qu'il y a des priorités, pour les handis, y a pas de budget. Pendant que leurs vies sont en attente, toi tu changes ta faïence. Hey, génération, hashtag inclusion, ferme ta gueule. Sache qu'on est là, on lâchera rien, on cassera ce système inhumain. Génération, hashtag inclusion, ferme ta gueule. C'est quoi mon fils? Il a pas de place, ni d'école.
Ce sera l'une des priorités de mon quinquennat.
Ferme ta gueule.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers de nos concitoyens, au-delà des millions de personnes en situation de handicap et de leur famille, qui sont sans solution, livrées à elles-mêmes.
En vérité,
à un quotidien où on n'apporte aucune réponse.